Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. On peut mentir comme on respire, c'est un dicton. On peut aussi écrire comme on respire. Quel écrivain ne rêve-t-il pas d'accéder à une telle fluidité? Christian Bobin, dans un court essai, une courte évocation du peintre Pierre Soulages, qui atteindra l'âge de 103 ans le 24 décembre 2022. Donc Christian Bobin avait entrepris un pèlerinage vers l'atelier du peintre situé à Sète le 25 décembre 2018. Une interrogation parmi d'autres, je cite un extrait de cet essai intitulé sobrement « Pierre, virgule ». Voici ce qu'écrit Bobin. « On ne crée que pour guérir d'une angoisse, arrêter à main nue les cavales de l'apocalypse fonçant sur nous, pour tenir face à la mitraille du néant, pour ne pas se coucher de lassitude sur la terre meuble des conventions, on écrit, on compose, on peint. Le divin est l'ordre lancé au cœur de battre et de se battre. On choisit sa mort. Ce ne sera pas celle qui viendra à la fin, ce sera celle qui vient à chaque fois que vous décrochez le mot juste, à chaque fois que le fouet sur la peau de la toile imprime le lacet qu'il faut, qu'il fallait, exactement, le trait, la gifle qui frappe le néant, le dissuade d'avancer plus près, donne congé à la si persuasive tentation de se rendre. Aussi peut-on dire que Bobin, en effet, ne se rend pas, n'abdique pas devant les cavales de l'Apocalypse. L'écriture, envisagée comme rempart. N'écrit-il pas encore, entre moi et le monde, une vitre? Écrire est une façon de la traverser sans la briser. Toutefois, un écueil se présente lorsque Christian Bobin s'abandonne à la facilité des jugements à l'emporte-pièce. Par exemple, celui-ci, toujours dans le même essai à propos de Soulages, « Sète, ma petite Sète, ma ville sans rien, ton cimetière marin avec l'ennuyeux Valérie et son cerveau de marbre. » Dans sa supplique pour être enterré à la plage de Sète, Georges Brassens affirmait avec plus de nuances sa déférence envers Paul Valéry, nommé le bon maître. Mais, puisque Bobin a aussi composé des pages sur Mozart, écoutons Mozart. Thank you. Nous l'avions dit précédemment, Bobin a été maintes fois accusé de mièvrerie, ce que peut-être corrobore un passage comme celui-ci, avec la réserve qu'impose le choix d'un seul paragraphe arraché à l'essai déjà cité. Pierre, nous ressemblons à notre âme, et notre âme, elle ne fait rien, jamais rien. Elle regarde par la fenêtre, elle attend ce qui ne viendra pas, ce qui viendra sûrement. Nous ressemblons à notre âme, et c'est pourquoi un balayeur des rues, j'en ai connu un, peut aussi être un ange. En rejoignant la cohorte des anges, le balayeur, envisagé comme un cas individuel d'exception, donne lieu à une très maladroite métamorphose, et ce qui devait être défendu devient en réalité vilipendé. Rapproché en arguant d'un ancrage dans l'expérience, un balayeur d'un ange témoigne au pire d'un mépris déguisé, au mieux d'un angélisme bien naïf et bien artificiel. Tirer un ange par les cheveux, cela ne lui fait peut-être pas mal, mais cela reste une privauté à proscrire. Bobin n'a pas esquivé les accusations de mièvrerie, puisque dans « L'homme joie », un autre texte qu'il a écrit, il écrit notamment « On m'accuse d'être mièvre, que dira-t-on à maître Dogen, ce sage du XIIIe siècle japonais, lorsqu'il écrit « L'univers entier est fait des sentiments et des émotions des fleurs ». Il n'est pas sûr que ce passage le fasse échapper à la mièvrerie dont il est accusé. Et la reconnaissance, cette fois d'un autre poète, lui fait dire, toujours dans le même essai, « La lutte légendaire d'un laurier rose avec la grande armée de l'ombre, je la retrouve chez Corneille dans les personnages de Surena. La langue est celle des laves qui travaillent sous le jour. Une reine va chercher le feu dans ses entrailles, son cri doré à la feuille d'or et le hurlement d'une gisante du XVIIe siècle, soudain tiré de son repos pour retrouver l'inépuisable douleur de vivre. Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Ce cri m'épouvante et me comble. Une paix m'arrive par ce hurlement. Il est tard, cela fait deux fois de suite que je lis Surena. On peut traverser la mort à gué avec un seul poème en poche. Lire, écrire, aimer. Sainte trilogie. Le poème, un cercle de silence aux pierres brûlantes. Le monde, un froid qui gagne jusqu'aux étoiles. Vers 2 heures du matin, les reines meurent et je m'émerveille de leurs cris. Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Le monde ignore l'illumination de ce cri. Ce sont les morts qui allument les lampes de la vie. Cette fois, à la trilogie cornélienne, aimer, souffrir, mourir, Bobin en oppose une autre qui lui est parallèle, lire, écrire, aimer. C'est pourquoi son œuvre apparaît comme fondamentalement inégale. Toutefois, à la maladresse du récit trop convenu qui porte le titre « La femme à venir », font contrepoint ce qu'il nomme des émerveillements ou des enchantements simples. En voici deux, par exemple, dans cet extrait de « L'homme joie ». Deux choses importantes sont arrivées aujourd'hui. J'ai tout de suite su qu'il n'y en aurait pas d'autres. À 2 heures de l'après-midi, c'était plié. Deux émerveillements, c'est beaucoup pour un seul jour, non ? Le premier miracle, c'était la tête du cheval brun chocolat enfoncée dans l'herbe haute, noyée de boutons d'or. L'animal mangeait éclaboussé d'or et d'émeraude. Manger est un travail sérieux, sérieux et rêveur à la fois. J'étais si heureux de le voir. Allons, le ciel ne s'effondrerait pas encore ce jour-là, puisqu'un sage, à tête de cheval, mâchait la lumière verte mouillée de pièces d'or. Cette vision avait quelque chose de religieux. La vie banale était tranquillement soulevée au-dessus d'elle-même. Il y a dans la nature les fragments d'un alphabet ancien, des morceaux de lettres capitales, des ruisselets d'italique, de grands espacements bleus, de silence. Et parfois, par on ne sait quelle grâce, plusieurs lettres s'assemblent, des mots apparaissent avec ce qu'il faut entre eux, de silence respirant. Une phrase est tracée, vous la voyez, vous la lisez, elle ne reste pas en place, elle s'efface très vite. Le cheval brun, sa tête plongée dans l'or et les herbes dociles, composait une phrase infiniment rassurante sur la vie. Vous voyez cet attendrissement qu'on a devant la naïveté d'un tout petit enfant, cette sorte de courant d'air qui traverse le cœur à la vue de l'enfant confiant. Eh bien, l'ange à crinière et grand appétit d'or, sa vision engendrait dans mon cœur le même genre de brise. Je ne contemplais, entendons-nous bien, qu'un cheval lourd, mastiquant de l'herbe, engraissé par des jours et des jours de pluie. Mais, et le miracle est là, dans la même vue, je découvrais un ange mangeur d'étoiles, un moine des heures oisives, la preuve que la vie n'était pas fâchée avec nous, qu'elle n'avait jamais été aussi proche, immatérielle, impalpable, verte et jaune, avec son portier nonchalant à tête de cheval. Vous savez, des fois je me demande si je suis normal. La réponse est non, mais la réponse ne m'inquiète pas. Ce qui compte, c'est la puissance de la joie qui éclate à la vitre de nos yeux. Une apparition, une seule, et tout est sauvé. Alors pensez deux, car il y a eu, après la paix fabuleuse incarnée par le cheval marchand, une deuxième rencontre. Un bouquet de pois de senteur sur la table. Des fleurs bleues et roses, une haleine divine. Des fantômes aristocrates, la légèreté d'un chagrin d'amour. Le miracle, mettons cette chose au point, est toujours en deux temps. D'abord, il y a la vie plate, incontestable. Ces pois de senteur, je les avais ramenés moi-même à la maison. Je trouvais leurs fleurs belles, mais sans plus. Le miracle arrive dans un deuxième temps, quand s'éveille ce qui dormait sous nos yeux, quand ce qui surgit de la vie crève nos yeux et les remplace par des yeux d'or. Ils s'ouvrent et d'un seul rayon brûlent les apparences de la vie comme celles de la mort. Enfin on voit, enfin on sait, même s'il est très difficile de dire ce que l'on sait, ce que l'on voit, cheval ou pois de senteur. Je précise ceci au sujet des fleurs bleues et roses. Je les ai soudain connues si délicates que je n'ai pu les regarder en face très longtemps. La pureté est un soleil plus dur que le soleil. Il n'y a pas de jour où je ne reçoive une leçon merveilleusement éprouvante. Des yeux d'or pousse sous mes paupières, je regarde à travers eux, très vite, ça ne dure pas. Le cheval redevient cheval et la fleur fleur. Les yeux d'or se fanent ou me sont enlevés, comme on enlève les yeux de bille de la tête d'un baigneur. Reviennent les yeux de chair et la vie normale. Normale ? miracle et vie normale, une alternance, une opposition